Moi, je m'appelle Daniel Courtin, donc je suis ancien de l'église évangélique de Vendeuvre, et je suis ancien depuis 1990, donc ça, oui, ça remonte à loin quand même. Hein. Alors, j'ai quelque chose de commun avec Samuel, c'est quand je ne sais pas sur quoi prêcher, parce que ça arrive, hein, je dis au Seigneur, bon, écoute Seigneur, je ne sais pas sur quoi prêcher, et le Seigneur, il est bon, parce que la nuit, c'est exactement comme lui, je me couche, je me réveille, et ça y est, j'ai la prédication. Non, mais ce qui est pas banal aussi, c'est que le Seigneur, il me dit, ben voilà, tu vas prêcher sur le baptême. Ben oui, un jour de baptême, on va prêcher sur le baptême. Et puis, une chose aussi extraordinaire, c'est que Jean-Louis m'a dit, il faut pas que ça soit trop long. Alors je dis, Seigneur, ben, que ça soit court. Donc, il m'a donné 4 pages à lire. Donc, je pense que ça sera pas trop long. Je prie exactement la même chose pour mes enfants. Quand je prie, je dis, Seigneur, que ma descendance soit nombreuse et puissante sur cette terre, mais s'il te plaît, pas des triplés. Parce que je me dis, si c'est nous qui devons les garder, ça va être très très difficile. Voilà. Donc j'ai l'habitude, pour mes prédications, de mettre des dessins derrière. C'est pas des dessins d'or. Hein. Ceux qui font des dessins d'or, moi je l'espère, c'est la famille de Choui. Hein. Mais là, c'est simplement pour essayer de faire comprendre le message que le Seigneur il m'a mis sur le cœur. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que nous venons de vivre un moment intense et très fort avec les baptêmes donc de Johanna, d'Eva et de Samuel. Et je suis fier d'eux. Et franchement, je suis fier d'être dans cette église comme ancien. Peut-être ce matin, vous posez-vous un certain nombre de questions sur le sens profond du baptême, et je n'aimerais pas que vous rentriez chez vous sans avoir trouvé certaines réponses. Alors peut-être pensez-vous, c'est vrai que ces jeunes n'ont-ils que des douches à la maison pour venir prendre des bains à l'église ? Et peut-être vous posez-vous cette question pratique. C'est vrai, ça, on peut se poser cette question. Hein. Vous pouvez aussi vous poser cette autre question légitime. Est-on obligé de passer par les eaux du baptême pour intégrer l'église évangélique de Vendeuvre ? Je vous rassure, non. Nous vous accueillons tel que vous êtes. C'est simplement un choix. Et puis enfin, il y a la troisième question que vous pouvez vous poser. Vous pouvez vous interroger sur le sens profond de l'eau. Plonge-t-on dans l'eau comme Obélix, dans la potion magique, pour en ressortir en super baptisé ? Vous savez, vous voyez ? Alors, moi, je vous rassure, l'eau de Vendeuvre n'a aucune propriété magique. Tout est symbolique. Tout est symbole. Alors, personnellement, pour aborder le sens profond du baptême, est-ce qu'il y a des gens qui assistent pour la première fois à un baptême ici ? Non, tout le monde a déjà assisté à des baptêmes. Bon, d'accord, ok, pas de problème. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de plus beau texte que le texte de Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. On y voit Jésus, après sa résurrection, parler à ses disciples sur la montagne de Galilée. Voilà ce qu'il dit Jésus. Il dit « J'ai reçu les pleins pouvoirs dont le ciel est sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Alors c'est en réalité un très beau texte qui répond à un grand nombre de nos questions. Tout d'abord, on peut se poser la question, hein, qu'est-ce que fait Jésus sur cette colline de Galilée ? En réalité, Jésus, qui est le Fils de Dieu, a été envoyé en mission sur terre par son Père. Et vous savez, c'est un petit peu comme dans Mission Impossible. Hein, le Père demande à Jésus, est-ce que tu es d'accord pour accomplir cette mission ? Et Jésus accepte. Et quel était le but de cette mission ? Eh bien, c'était de libérer de leurs péchés les gens du monde, c'est-à-dire nous. Donc Jésus, oui, effectivement, il accepte cette mission. Jean 10, 18, voilà ce que dit Jésus. Personne ne peut m'ôter la vie, dit Jésus. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Quel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père ? Alors, en donnant sa vie sur la croix de Golgotha, tout le monde sait ce que c'est que Golgotha, hein, c'est la colline où Jésus a été crucifié. Jésus est venu accomplir la mission que Dieu, son Père, lui avait confiée. Et à la fin de cette mission, Jésus dit, mais tout est accompli. Voilà ce que dit Jésus en rendant l'âme sur la croix. Sa mission que le Père lui a confiée, elle est accomplie. La mort de Jésus à la croix va avoir cinq grandes conséquences pour l'humanité perdue. Pourquoi perdue ? Parce qu'elle est porteuse du péché, prisonnière du péché. Alors tout d'abord, en mourant sur la croix, Jésus a pris sur lui le péché du monde. Le péché, c'est ce qui nous empêche d'avoir une relation intime avec Dieu. Hébreux 9, 28, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes et de femmes, bien sûr. Ensuite, Jésus offre à celles et ceux qui croient en lui la vie éternelle. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, dès maintenant. Dès qu'on croit, on a la vie éternelle. Puis en mourant sur la croix, Jésus, là, il va réconcilier, c'est-à-dire il va réunir Dieu et l'homme. Avant, on était séparés, maintenant, on est réconciliés. 2 Corinthiens 5, 18, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Mais ce n'est pas tout. À la croix de Golgotha, Jésus a aussi écrasé la tête du serpent ancien qui a pour nom le diable et Satan. Jésus, par sa mort à la croix, a vaincu celui qui retenait les hommes prisonniers du péché. Et ça, c'est expliqué dans la Bible. Colossiens 2, 15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités maléfiques. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors oui, en écrasant la tête du serpent, de Satan à la croix, Jésus a rendu la liberté. Il a rendu libre tous les prisonniers du diable. Toutes celles et ceux qui croient maintenant en lui sont libérés. Êtes-vous libérés ? Oui, amen. Vous êtes libérés ? Vous êtes libres en Christ ? Ça fait plaisir de l'entendre. Du haut de la colline de Galilée, eh bien, c'est un Jésus ressuscité, tout auréolé, glorifié de sa victoire à la croix, qui vient accomplir à présent une nouvelle mission. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, maintenant j'ai reçu les pleins pouvoirs de Dieu, dans le ciel et sur la terre. Oui, c'est vrai, frères et sœurs, par sa mort sur la croix, il s'en est rendu digne. C'est Jésus et Jésus seul qui a reçu du Père l'autorité, l'exousia, dans le ciel, mais aussi sur la terre. C'est donc par lui seul et en lui seul que nous allons trouver la force de mettre en pratique ce qu'il nous a demandé. Alors, que nous a-t-il demandé ? La première chose que Jésus nous invite à faire, c'est aller donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Alors, vous savez, dans les missions précédentes, eh bien, Jésus avait envoyé ses disciples vers les Juifs, uniquement vers les Juifs. Désormais, ils sont envoyés dans le monde entier. Ils sont envoyés vers tous les peuples. Et Jésus dit, allez, hein, vous êtes des gens qui voulaient être ses disciples, eh bien, Jésus dit, allez. Il ne dit pas « amener les gens à l'Église », il dit « amener les gens à Christ ». Frères, sœurs, c'est quoi le monde entier ? Eh bien, le monde entier, c'est le monde qui nous entoure. Ce sont nos proches, nos enfants, nos parents, nos familles, nos voisins, nos collègues de travail. Ce sont nos amis et toutes celles et ceux que Dieu place sur notre chemin. Vous voyez, par exemple... On peut dire, on va aller évangéliser les Chinois, les Africains, etc. Mais vous voyez bien que les Indiens viennent, les Africains viennent, et ils sont autour de nous. Voilà, on peut témoigner aussi de ce qu'on entend. Alors on peut s'interroger sur ce qu'est un disciple. C'est quoi un disciple ? D'une manière générale, un disciple, c'est quelqu'un qui a choisi de s'asseoir au pied d'un maître, qui reconnaît son autorité, qui veut le suivre, l'imiter et recevoir son enseignement. Alors pour Jésus, un disciple, c'est la même chose. C'est avant tout une personne qui croit en lui, qui croit en son autorité, en sa seigneurie. Mais Jésus rajoute une chose. Luc 14, verset 33, « Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Alors, la parole de Jésus est dure à entendre. Et c'est vrai qu'elle est exigeante, mais elle est claire. On ne peut pas l'éviter. Renoncer à tout ce que nous possédons ne signifie pas tout vendre et tout donner. Ce que Jésus voulait dire, c'est que le disciple devait être prêt à faire passer l'obéissance à Christ avant l'attachement au bien personnel. Abandonner, renoncer, c'est renoncer à ses droits de propriété pour devenir gérant des biens que Dieu nous a confiés. Alors, renoncer à tout. Renoncer à tout. C'est aussi renoncer en premier à soi-même. Renoncer à diriger sa vie par ses propres forces, ses propres pensées et sa propre autorité. En réalité, ce que demande Jésus, c'est que le disciple confie l'autorité et la conduite de sa vie au Saint-Esprit, qui est venu habiter en lui quand ? Bon, je vais un peu participer, là. Il est venu habiter quand en lui, le Saint-Esprit ? Quand il a cru. Hein ? Voilà. Lorsqu'il a cru et a dit oui à Jésus. À présent, qu'il a renoncé à tout, le disciple est en capacité de suivre Jésus. Comme l'apôtre Paul, il peut dire, Galates 2,20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, il s'agit d'un transfert de propriété. Le disciple ne s'appartient plus, il appartient à Christ. Alors, maintenant, au plus profond de moi, j'entends le cri profond de votre indignation. Hein ? Vous allez dire, mais il n'est pas sérieux, Daniel, de nous dire cela, c'est totalement impossible à l'homme de renoncer à tout, de renoncer à lui-même, à tout ce qu'il possède. Et moi, je dis, vous avez raison, et vous avez mille fois raison, c'est impossible. Et là, je rejoins tout à fait Samuel, eh bien, c'est bien de renoncer, c'est totalement impossible à l'être humain de renoncer à lui-même. L'apôtre Paul l'affirme lui-même et le confesse, il dit... Dans Romains 7, 18, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà, j'aimerais bien renoncer à tout, j'aimerais bien le faire. Je trouve que c'est même bien qu'il faut le faire, de le faire, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai que si on renonce pas à soi-même, eh bien le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas reconstruire en nous. C'est une nécessité, car en gardant les commandements de notre vie, nous ne permettons pas au maître de diriger et d'œuvrer dans la nôtre. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ça, c'est une grande chose à se rappeler. Puisque Jésus me demande de renoncer et que je n'y arrive pas, eh bien, c'est lui maintenant qui va m'aider à le faire. Par la puissance du Saint-Esprit qu'il a placé en moi lorsque j'ai cru en lui. On arrive donc à renoncer à toute chose parce qu'on a cru en Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit et parce que c'est lui qui m'aide à renoncer. Et on arrive à cette conclusion, Romains 1, 17, « Le juste vivra par la foi ». C'est parce que j'ai cru que je peux renoncer à moi-même parce que c'est le Saint-Esprit qui m'aide à le faire. Alors le véritable disciple de Jésus... Dans sa version première, celle de la colline de Galilée, eh bien, c'est une personne qui croit en Jésus-Christ. Il peut désormais suivre le chemin spirituel qu'a parcouru Jésus, c'est-à-dire la mort sur la croix, puis la résurrection. Alors bien sûr, on ne va pas aller se faire clouer sur une croix. Cela se fait en esprit, au-dedans de nous. Jésus dit, faites des disciples. Alors bien évidemment, on ne fait pas des disciples comme on fait des gâteaux, ou des kouglof. Pour faire des disciples, il faut être soi-même disciple et amener des hommes, des femmes qui nous entourent à croire en Jésus-Christ. Par notre témoignage et par la puissance du Saint-Esprit qui va les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Jean 16, verset 6, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Faire des disciples, c'est donc inviter des personnes à croire de tout leur cœur, comme disait Samuel, afin qu'ils meurent, ou que ces personnes meurent à elles-mêmes, dans leur pensée charnelle, humaine, pour qu'elles renaissent dans une forme de résurrection, de manière tout à fait spirituelle. C'est ce que la Bible et Jésus appellent naître de nouveau, ou la nouvelle naissance. Et ça, vous pourrez trouver ça dans la Bible, dans Jean, chapitre 3. Tout ceci se passe à l'intérieur du disciple, qui quitte son ancienne nature, comme sur le dessin, son ancienne nature charnelle, pécheresse, pour revêtir une nouvelle nature spirituelle. Il renaît en Christ. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en lui. Ce n'est pas son œuvre à lui. Par exemple, à Nicodème, qui était un docteur de la loi, qu'est-ce que dira Jésus ? Il va lui dire, dans Jean 3, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà, d'un côté il y a la chair, de l'autre côté il y a l'esprit. Il faut renaître en esprit. Puis quand Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il parle des disciples convertis, nés de nouveau, et les invite à l'étape suivante, celle du baptême. Alors frères et sœurs, chers amis, les disciples vont témoigner extérieurement devant nous, par le baptême, de ce qui s'est passé intérieurement lorsqu'ils ont cru. Voilà, c'est ça le symbolisme du baptême. C'est, ils vont nous expliquer par un acte extérieur tout ce qui s'est passé en eux. Alors d'une manière... Johanna, je me trompe de feuille. Le disciple qui descend dans l'eau, alors l'eau c'est symboliquement un élément purificateur, il va mimer, il va exprimer de manière symbolique sa mort à la nature charnelle, sa mort au péché. En plongeant résolument sous l'eau, puis bien sûr il remonte, c'est mieux, il ressurgit hors de l'eau pour affirmer sa résurrection spirituelle en Christ. Jésus nous rappelle que le baptême exprime la conversion du disciple et que l'eau de Vendeuvre n'a aucune propriété magique pour transformer les vies. Ne voyez pas dans l'eau quelque chose d'extraordinaire. Cette conversion, cette nouvelle naissance du disciple n'est possible que parce que Dieu le Père a appelé le disciple, que parce que Jésus, Dieu le Fils, est mort à la croix pour lui, et que Dieu le Saint-Esprit a transformé son cœur et sa vie. Vous voyez, les trois, il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un, mais en trois personnes. C'est donc au nom de l'unité divine, Père, Fils et Saint-Esprit, que se pratique le baptême. Amen. Voilà, c'est l'unité des trois. Jésus dit encore, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, au verset 20. Le disciple et l'Église ont la responsabilité d'enseigner la juste doctrine, la vérité contenue dans la Bible, qui est la parole, bien sûr, inspirée de Dieu. La seule référence, la seule vérité, la seule autorité dans nos vies. Alors c'est de la responsabilité du disciple que d'assurer son propre enseignement en lisant régulièrement la Bible, et c'est de la responsabilité de l'Église que d'enseigner sans cesse les rudiments de la foi et d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Voilà, responsabilité du disciple, responsabilité de l'Église. On est bien d'accord. Et il est temps de conclure. Jésus nous laisse à chacune, chacun, cet encouragement et cette promesse. Et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Vous voulez le répéter ? Ben, on va le répéter ensemble. Et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Non, vous l'avez répété, est-ce que vous le croyez ? Amen. Jésus, par sa présence constante dans nos vies de disciples, est une aide permanente, un soutien qui ne manquera jamais et que nous devons entretenir par une relation permanente et quotidienne. Jésus nous rappelle la belle promesse de Dieu de nous accompagner et de ne jamais nous abandonner jusqu'au terme de notre vie. Jusqu'au terme de notre vie, il nous accompagnera. Je me rappelle, étant jeune chrétien, je disais avec mon épouse, on disait, mais ouais, bon, tant qu'on est jeune, on a le feu, mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Et je me rappelle que Jean Coumarianos, qui était un évangéliste à ce moment-là, il me dit, mais qu'est-ce qui vous apprennent dans votre église ? Hein ? Il dit, c'est jusqu'au bout ! L'œuvre que Dieu a commencée en vous, il l'accomplira jusqu'au bout. 40 ans plus tard, je dis, c'est vrai, il avait raison. Voilà. Alors merci pour votre écoute, et s'il y a des explications que vous n'avez pas, des choses que vous n'avez pas comprises, ou des choses que, ben, vous, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ben, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte. Il y a la dame qui m'a reconnu. Voilà, merci.
Merci Daniel.